Allez, go, c'est parti pour le magazine 13 Passions. Alors, je tiens le micro avec les mains, j'espère qu'on m'entend bien. Je dis bonjour à mes deux coéquipiers, Roger et Denis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5?
Oui, on vous entend 3 sur 5, mais nous sommes là. Bonjour Denis, bonjour Nicole, bonjour nos auditrices et auditeurs.
Eh bien oui, 5 sur 5 Nicole, top. Bon, bonjour à toutes et à tous, en effet, heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end 13iste.
Eh oui, nouvel numéro de 13 Passions, le magazine du rugby à 13. Alors, de quoi allons-nous parler? Bien, du rugby à 13, évidemment, mais particulièrement de l'Académie de Carcassonne, puisque ils ont deux événements quand même assez importants. C'est le retour du tournoi Jean-Marie Grégoire, et puis je crois que c'est la sortie d'un livre sur la maison des jeunes, hein, et l'école, la grande école de Carcassonne 13, de l'ASC 13 et de Carcassonne 13, qui maintenant ce n'est plus, puisque c'est l'académie, c'est l'académie maintenant des jeunes qui sont directement liés à Carcassonne 13. Et Denis, pour les interviewer, tu vas nous dire le nom de nos invités.
Alors, nous allons avoir José Saez, coprésident de l'Académie, et Bernard Garcès, qui en est, si je ne me trompe pas, le trésorier. Voilà, donc, nous allons retrouver ces deux amis, incessamment sous peu, pour leur... Ils sont arrivés déjà, là, ils sont là. C'est pile poil, hein, bien, bravo Nicole. Eh bien, Roger, tu peux démarrer ou comme tu veux.
Denis, nous aurons ensuite, on parlera un peu d'ANL, du championnat français, parce qu'il y a un match important dimanche, et puis certainement des informations locales, des informations. Bon, attendez, on va attaquer avec l'Académie, et c'est l'école de rugby à 13 de Carcassonne 13. Oh, Denis, je sais que tu les connais bien, là, je vais te laisser parler en premier, après j'interviendrai si tu veux, mais à toi l'honneur.
Alors, je vais démarrer, oui, je vais, alors, je, Roger, si tu es d'accord, je vais démarrer par la partie bouquin, et puis peut-être, tu poseras des questions, ensuite on abordera la partie du tournoi, et donc que tu connais peut-être mieux que moi. Allez, bonjour messieurs José Saez et Bernard Garcès, est-ce que vous entendez bien?
Oui, on vous entend très bien. Bonjour à vous. Bonjour, parfait.
Voilà, donc bien, nous aussi, bonjour. Apparemment, ça passe bien, on est à Nicole, je pense que... Voilà, donc alors, José et Bernard, on est heureux de vous recevoir sur Radio Marseillette. Hein, pour José, c'est pas la première fois, mais Bernard, c'est la première fois. Alors, déjà, rappelez-nous... Hein, très rapidement, pour encore, s'il y a encore des personnes, des auditeurs, des trésistes qui ne connaissent pas ce qu'est l'Académie, ce qu'est cette fameuse Académie.
Eh bien, bonsoir à tous déjà. L'Académie, c'est donc l'école de rugby de Carcassonne 13, qui fait le suivi de l'ancienne MJC 13. Voilà, donc on a récupéré, on a créé ce club-là, cette école de rugby, de telle manière pour pouvoir avoir une même entité de Carcassonne. Voilà, on pourrait être un petit peu tenant à ce club.
Alors, lors de l'interview, on abordera un peu trois sujets. Le premier sujet, on va démarrer par le livre que vous sortez. Ensuite, avec Roger, également, on abordera le challenge Jean-Marie Grégoire, qui va avoir lieu très bientôt. Et puis, on fera un petit point, on terminera par un petit point où vous en êtes des effectifs, un peu et où vous en êtes des diverses compétitions pour les niveaux qui ont des compétitions. Alors, Bernard et José, à côté donc de l'organisation de cette académie, à côté également de la mise en place des compétitions pour les jeunes, vous avez décidé de vous attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire de sortir un livre sur l'histoire de la Maison des Jeunes de qui vous a précédé, de ses origines à aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
Je vais laisser la main à Bernard Garcès, qui est plus à même de vous raconter toute cette histoire-là.
Oui, c'est le maître d'œuvre, Bernard.
Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, l'Académie étant une toute nouvelle entité, nous n'avons aucune histoire derrière nous. Par contre, nous prenons l'héritage de tous ceux qui nous ont précédés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, l'idée de ce livre repose sur, faut pas se le cacher, un besoin initial de trésorerie pour démarrer notre activité. Bien évidemment, et on tient à les remercier encore une fois, la mairie nous avait suivis en termes de subvention par rapport donc à notre projet. Nos sponsors nous ont aussi suivis, mais au-delà de tout ça, on avait l'idée de générer un projet, de faire quelque chose pour ne pas toujours solliciter sponsors, municipalités, etc. Et l'idée était tout de trouver, d'associer les précédentes générations dans un livre commun à tous, où on retracerait l'histoire donc de tout ce qui était école de rugby, école avec un S, puisque donc le livre parle aussi bien de la MJC 13, qui bien sûr à la part du Lyon, mais certainement que c'est le club phare de la ville au niveau des jeunes, mais aussi des juniors de la SEC et de l'école de rugby de Saint-Jacques et d'autres écoles plus éphémères que les plus anciennes connues, style la JAS et les Albatros. Et donc, ce faisant, l'idée est venue qu'au-delà du livre, on avait aussi une deuxième pensée qui était associée à ce livre-là, c'était justement de rassembler des générations et donc de faire en sorte que la famille trésiste carcassonnaise, par l'enfance, par la jeunesse, se regroupe et se retrouve au sein donc, de ce document qui retracera l'histoire de plus de 60 saisons d'écoles de rugby sur Carcassonne. Voilà l'idée et ce qui nous a poussé à réaliser ce livre.
Alors Bernard, plus de 60 saisons, tu viens de dire, donc ça veut dire que ça démarre dans les années 60, si je comprends bien là.
Ça démarre en fait au tout début, le premier titre de 1949 des juniors de la SEC. Alors effectivement, pour retrouver de l'information sur cette date-là, ça a été assez difficile et parcellaire, mais il y a encore donc dans ce livre une bonne partie de l'histoire retraçant donc les années 49 au tout début des années 60, et depuis les années 60, c'est là qu'on retrouve les équipes de quartier et la création de la MJC à partir de 1963, puis Saint-Jacques en 1968. La JAS, pardon, les Albatros en 1968 ont pu figurer l'école de rugby de Saint-Jacques. Et donc, pour ceux qui sont, tout est regroupé dans un avant 1960, et puis à partir de 1960, saison par saison, on reprend l'histoire et on reprend les photos des équipes qui, des tout petits jusqu'aux juniors, ont fait fonctionner ces écoles de rugby sur Carcassonne. Hein.
Alors, le contenu, ce sont des photos, des témoignages, comment vous racontez l'histoire
En fait, ce livre, l'idée initiale, si on peut développer, c'était effectivement de recueillir des témoignages. Donc, on en a recueilli quelques-uns, mais pas suffisamment pour faire un livre de témoignages. Donc, on a orienté différemment notre idée et on a donc composé un livre en gros en trois parties. Une première partie qui fait grosso modo une cinquantaine de pages qui retrace l'histoire des écoles de rugby à 13. Donc, saison par saison, on reprend les grands faits marquants de chacune donc de ces années-là. On cite par exemple les groupes qui sont arrivés en finale nationale. Alors on parle là des minimes, des cadets et des juniors, que ce soit en coupe et championnat. Et on parle de ce qui a pu être un fait marquant dans la saison. Voilà. Et ça, donc, saison par saison, de 1961-62 jusqu'à 2019, qui, à aujourd'hui, est la dernière saison complète qui s'est tenue, puisque, donc, les deux dernières années ont été marquées par le Covid et l'absence de véritables compétitions.
Alors, je suppose que vous avez dû faire quand même certains choix, parce que, en termes de grands événements, cette maison des jeunes, cette MJC 13, elle en a connu un paquet.
Exactement. Alors, il y a des saisons pour lesquelles on parle donc de dirigeants marquants, des saisons pour lesquelles on parle de nouveautés telles des voyages, le premier voyage en Angleterre, la première réception d'anglais, la création d'une équipe féminine, la création des Albatros, de Saint-Jacques, de la Jarre, les grands hommes qui, entre guillemets, ont marqué l'histoire du rugby à 13, c'est des grandes figures qui ont longtemps œuvré pour ce mouvement et qui ont très souvent travaillé dans l'ombre. Donc, on parle aussi des écoles satellites, on parle des relations qu'il pouvait y avoir entre la MJC 13, chère à Loulou Delon, et la SEC, qui n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, même si ça a toujours été en toute amitié, en toute reconnaissance des deux côtés. Voilà, c'est tous ces éléments-là, tous ces événements qui, de ci, de là, font ces 50 pages retraçant l'histoire, même si on tient bien à le préciser, c'est pas un livre d'histoire dans la mesure où, bien évidemment, on ne parle pas de tout. Il y a vraisemblablement des oublis, volontaires ou pas, il y a peut-être quelques erreurs aussi, mais ça retrace un petit peu tout ce qui a été école de rugby sur le Carcassonnais pendant donc ces 60-70 dernières années.
Et puis, je suppose que c'est un moyen aussi de rendre un hommage, tu as parlé de personnalités, à de grands dirigeants de cette école de rugby, évidemment, au premier rang, Loulou Delon, mais pas que, il y en a eu beaucoup d'autres, et puis de futurs grands joueurs de Carcassonne, de la SEC, d'autres clubs, hein, parce que c'est vrai que des joueurs qui sont sortis de cette maison des jeunes sont allés jouer du côté de Limoux ou ailleurs, et puis à l'équipe de France. Donc c'est aussi un moyen de rendre hommage à ces nombreuses personnalités.
Alors tout à fait. Alors au niveau des dirigeants, on parle bien évidemment de Loulou Delon, figure emblématique, mais aussi par exemple de Tantine, on parle de Camille Holmes, on parle de Alex Lagarde, qui ont été des gens qui, chacun à leur façon, ont marqué cette histoire-là. Quant aux joueurs, disons que l'idée était de travailler sur des groupes. Autrement dit, il n'y a pas d'article particulier sur un joueur qui ressortirait du lot. La volonté de l'équipe, c'était de dire on parle des générations et on associe au sein de ces générations tous ceux qui, pour une même saison, ont porté des maillots des tout petits, autrement dit de l'école de rugby, en commençant par les pupilles, les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets et les juniors. Junior B, quand il y en avait au niveau de la MJC 13 notamment, ou de Saint-Jacques, des Albatros ou de la JAF et des juniors de la SEC. Et donc, comme je disais préalablement, on cite tous les groupes, notamment donc tous les joueurs que l'on a identifiés, je tiens bien à le préciser parce que c'est du travail de recherche au travers donc de multiples articles de journaux récupérés donc dans la Dépêche du Midi. Et donc, voilà, on parle des groupes, mais il n'y a pas d'article sur un joueur en particulier. Sur les dirigeants, oui, mais pas sur un joueur. La volonté était de raisonner en équipe et de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, notamment aussi pour ce qui était des photos, où on retrouvera des photos en noir et blanc qui n'ont certainement pas la qualité des photos que l'on sort aujourd'hui par ordinateur. Mais c'est une volonté de notre part, de façon à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne.
Et donc oui, les futurs lecteurs, acheteurs de ce livre pourront s'amuser dans les photos à rechercher des grands noms de la SEC, comment ils étaient dans leurs plus jeunes années.
Tout à fait, tout à fait. Au travers des noms qui sont cités dans la partie histoire, ceux qui voudront chercher dans les photos, puisqu'il y a plus de mémoire, je crois qu'il y a plus de 350 photos d'équipes de l'école de rugby jusqu'au junior, pourront donc chercher ces fameux grands joueurs de la SSC 13 qui, tout petit, portaient des culottes courtes et s'amusaient avec leurs copains sur les prés de Romieux, de la plaine Mervieille. Après, on portait toutes ces couleurs carcassonnaises sur les terrains de Domecq et même pour certains au-delà de la Manche, quand ils ont été internationaux, pour certains, donc.
Alors, ce livre, il n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore se le procurer physiquement, mais je suppose que, quand c'est qu'il va sortir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, comment on fait pour ce... Si déjà on veut passer... Est-ce qu'on peut passer précommander, ou comment, à qui il faudra le commander? Enfin, dites-nous un peu... pour que nos amis auditeurs sachent déjà comment... On reviendra ensuite, on aura l'occasion, lorsqu'il sera sorti, lorsqu'on l'aura entre les mains, on refera une émission où là, on pourra passer, discuter un peu du contenu, des photos, etc. Mais là, bon, voilà, il serait bien que vous nous disiez quand c'est qu'il sort, enfin, etc.
Alors, Le livre est à l'impression aux imprimeries Gabel depuis la semaine dernière, et donc nous devrions récupérer la livraison semaine prochaine, et il est fort probable, et on y compte beaucoup, que nous puissions le mettre en vente dès le dimanche 3 avril lors du tournoi Grégoire, où les gens pourront se le procurer donc lors de cette manifestation. Il est vendu sur la base de 25 euros. On peut dès à présent faire des réservations en envoyant un chèque libellé au nom de l'Académie sportive Carcassonne 13 à l'adresse du club, qui est donc au stade d'Albert Domecq, 3 avenue Général Sarraille. C'est le siège de Carcassonne 13. Et il sera en vente au niveau du bar chez Félix à la suite, et donc d'autres points de vente que l'on fera connaître. Voilà, mais on peut nous contacter sur le site de l'Académie, qui est donc contactacademiec13@... alors attendez, je me tourne vers José parce que je n'ai pas tous les coordonnées, donc il me dit contact@academiec13.fr, sachant que académie s'écrit avec un Y. contact@academiec13.fr.
D'accord. Alors, je suppose aussi que, bon, sur les matchs qui restent à domicile, en particulier au stade Albert Domecq du club phare Carcassonne 13, en particulier lors du derby de Limoux, et puis peut-être pour un barrage ou peut-être pour une demi-finale, qui sait, de l'équipe 1, il y aura un stand de l'Académie du côté de l'entrée où vous vendrez ce livre.
Oui, bien évidemment, dans la foulée lors du match contre Limoux, l'Académie sera présente et donc le livre sera disponible lors donc, de ce match. Et plus généralement, je vous dis, on est en train de contacter une paire de commerces sur la ville de façon à les laisser en dépôt vente, que les gens qui ont l'habitude de fréquenter les hauts lieux 13istes, si je peux m'exprimer ainsi, puissent facilement trouver le livre. Voilà. Et puis bien évidemment, au niveau du siège aussi, les gens pourront se le procurer au moment de l'ouverture des bureaux et du secrétariat de C13.
Alors, ça va être un véritable livre. Tony, oui. Denis, non, vas-y. Combien de pages il fait ce livre?
Ce livre fait 320 pages.
320 pages. Alors, vous avez parlé...
Alors, oui. T'es pas arrivé à 500, hein, là, bon...
Non, je te parle. Il a fallu couper court et c'était trop lourd. 320 pages, c'est déjà un gros pavé, sachant qu'il est au format A4.
Et comme je dis en plaisantant, à défaut de satisfaire la lecture, il pourra toujours servir de bonne cale, parce que croyez-moi, il est relativement d'accord. Épais. Voilà.
D'accord.
Voilà, j'en sais quelque chose.
Denis, j'ai autre chose à dire, de couper un peu l'herbe sous les pieds. J'ai entendu tout à l'heure qu'il était composé de trois parties. Bon, maintenant, vous en avez dit une concernant les photos et tout. Quelles sont les deux autres parties?
Alors, la première partie, c'est donc l'histoire. J'ai embrayé. La deuxième partie, c'est la partie photo. Il y a grosso modo 150 pages de photos. Donc, ça représente, je vous ai dit, 350 photos d'équipe. Et puis la troisième partie, en fait, l'originalité, c'est que c'est la reprise in extenso des articles parus dans la Dépêche du Midi, relatant l'ensemble des finales jouées par des clubs carcassonnés, finales nationales, on entend bien, championnats ou coupes, jouées par des clubs carcassonnés au niveau des minimes, cadets et juniors. On a identifié 106 finales jouées par minime cadet et junior carcassonné sur un plan national. Et sur les 106 finales, qui démarrent, je le rappelle, en 1949, et ce, donc jusqu'en 2019, on a pu récupérer 100 articles relatant ces finales-là. Sachant qu'effectivement, pour certains, l'article se composait d'entrefilets de quelques lignes, et pour d'autres, l'article faisait une bonne page. Voilà. Et ces articles-là, juste, ont été un petit peu égayés par des photos de ces finales, puisées un petit peu par ailleurs. Mais ce pavé-là représente, grosso modo, une centaine de pages. 100 finales sur les 106 que nous avons réussi à identifier.
Alors, sur Radio Marseillette, et on va faire un jeu, on va demander de trouver un short avec les chaussettes et tout, une photo de Denis Arcas, qui est passé, je pense, par la Maison des Jeunes.
Je vous assure et certifie qu'elle y est.
Et même, oui, d'accord. Puisque j'ai même remporté le titre de champion de France cadet en 1968, la bonne année. Voilà, donc normalement, en effet, je devrais y être. Je dois reconnaître, Roger, je vais te laisser la parole pour parler du challenge Grégoire avec nos amis, mais c'est vrai que, pour avoir moi-même, je sais ce que c'est, et c'est un travail extraordinaire, il a fallu faire, je vous félicite parce que je sais ce que c'est, faire des recherches comme vous avez fait, et vraiment, il faut saluer le travail que vous avez fait, et espérons que tout le public résiste, mais aussi tous ceux qui ont tous les carcassonnés qui sont passés par cette maison des jeunes, eh bien, et qui ont touché un jour un ballon de rugby à 13, ils sont obligatoirement passés, ils seront beaux acheter ce livre parce que vraiment il doit valoir le coup, on l'a pas encore vu, mais il doit valoir le coup, et puis il faut récompenser aussi le travail qui a été fait. Allez, Roger,
pardon, juste une précision, parce que c'est important, oui. Pour nous, si des gens veulent dès à présent faire des pré-réservations, surtout qu'ils nous joignent une adresse mail ou un numéro de téléphone où on peut les joindre, parce qu'en fait, ce livre-là, c'est, je dirais, une base pour aller plus loin. Autrement dit, nous avons l'intention, derrière la vente de ce livre, de réunir tous ceux qui voudront bien venir participer à une journée où l'on regroupera toutes les générations sur un pré pour un buffet champêtre, de façon à ce que la grande famille trésiste puisse renouer des liens qui sont plus ou moins distendus avec le temps. Et le constat étant que chaque génération organise chacune dans son coin des retrouvailles de temps en temps, mais il n'y a pas des grandes retrouvailles. Et donc, notre volonté, c'est d'avoir des coordonnées pour proposer aux gens de se réunir et, en fonction des retours que nous aurons, organiser une grande journée, Génération 13, où, depuis ceux qui ont porté les couleurs de la MJC, des clubs de quartier en 1960, jusqu'au tout dernier des années 2019, on puisse avoir une journée extraordinaire où serait regroupée la grande famille étrangère. Voilà, j'ai assez parlé, je passe la parole maintenant à mon président.
Mais j'ai pas fini, moi, oui. J'ai une question à poser. Attendez, je vais partir.
deux questions à poser. La première, comment il s'appelle le titre de ce livre?
Alors, le titre de ce livre s'appelle « Des quartiers, un rugby, une ville, Carcassonne, histoire des écoles de rugby à 13 ».
D'accord. Ensuite, deuxième question, c'est peut-être une colle. Est-ce que vous avez une idée du nombre de licenciés qui sont passés dans la maison des jeunes depuis sa naissance?
Alors, du nombre de licenciés, non. Par contre, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai essayé de compter le nombre de noms de joueurs qui sont cités dans le livre. Et donc, pour cela, j'avais fait des petits montages de façon à avoir tous ces noms les uns après les autres. Et je vous avoue qu'à partir de 2000-2500, j'ai arrêté de compter parce que j'avais la tête qui explosait. Donc, gens qui ont joué des finales, il y en a plus de 2000. Bon, il est vrai que certains ont eu la chance de jouer des finales en minime, en cadet, en junior. Donc, c'est redondant. Mais il y a plus de 2000-2500 noms cités. Et donc, en termes de licenciés, tout le monde n'ayant pas joué des finales, je pense qu'on doit être bien au-delà de 6000 à 10 000 licenciés. Pour moi, je pense que la fourchette...
C'est énorme, c'est énorme.
Elle se situe entre 6 et 10. Sachant que, donc, on parle de l'MJC, de Saint-Jacques et des deux autres clubs, y compris des clubs de quartier. Donc, vous voyez un petit peu le nombre que cela peut représenter.
Et ces clubs de quartier, ils ont tenu combien de temps, à peu près?
Ben, les clubs de quartier ont tenu, grosso modo, de 1958-1959 jusqu'en 1962, puisque c'est à partir de 1962, officiellement en juillet 1963, que les clubs de quartier, à l'initiative donc de Loulou Delong, Camille Holmes, Alex Lagarde et quelques autres dirigeants de l'époque, se sont rangés sous une bannière unique, la MJC 13, en continuant pendant une ou deux saisons, chacun avec leur propre couleur, mais sous la bannière MJC 13. Tout ça est expliqué dans le livre, donc il faut l'acheter. C'est la seule chose que nous vous demandons.
Pas de problème.
Allez, on va passer au tournoi Jean-Marie Grégoire. Alors, avec qui je vais pouvoir discuter? Avec M. Saez, éventuellement?
Allez, Roger,
allô?
Vas-y.
Oui, M. Saez? Oui, je l'entends très loin. Hein, autant j'entends très bien.
Est-ce que M. Saez peut se rapprocher du micro?
Oui, ça y est, c'est fait.
Ah bon, là, on l'entend bien, sinon vous n'entendez pas. Bonjour, Monsieur Saez. Alors,
bonjour.
Il va y avoir le retour du Grégoire. Ça faisait combien d'années? 2 ans qu'il était interrompu, ce grand challenge.
Il a été interrompu déjà il y a 2 ans. Là, on avait tenté de le faire l'année dernière également, et au dernier moment, malheureusement, l'épidémie nous a rattrapés. Il a fallu l'annuler 15 jours avant la date.
Alors, ce tournoi, bon, il a été créé il y a déjà pas mal d'années, hein, et avec un animateur qui s'appelait Laurent Reynaud. Est-ce que Laurent Reynaud est toujours parmi vous?
Alors, Laurent Reynaud a continué à nous suivre dans la... au club, à l'académie. Quand je le lui ai proposé, il a dit oui tout de suite. D'ailleurs, dans la structure que on s'est imposé au sein du club, on a donc un directeur de tournoi, et c'est Laurent Reynaud qui en est responsable. Voilà.
D'accord. Alors, ce tournoi qui a pris la succession du challenge strip et qui a disparu, il est sur un fonctionnement qui n'a rien à voir avec un simple tournoi, parce que ce challenge, il est basé évidemment sur l'école rugby, et chaque catégorie, il y a des phases de classement par poule, des demi-finales et des finales. Toutes les catégories sont concernées.
Alors, toutes les catégories, à partir des tout petits, des U7, des poussins, jusqu'au Benjamin. On s'arrête uniquement au Benjamin. Et toutes les compétitions, bien sûr, il y a un classement comme une véritable compétition que l'on a dans un championnat.
Oui. Et bon, ça va être toujours, je suppose, à la Plaine et Revieille.
On continue toujours à la Plaine. Et dans ce même championnat, je précise que entre midi et 2h, on a le championnat des meilleurs buteurs. On a créé championnat de sixième champion, c'est le sixième trophée Schuft, un ancien joueur également, des concours de transformation. On est, je crois, le seul club en France à avoir ce type de concours pour les jeunes, à tous les jeunes qui veulent y participer. Et puisque jusqu'à présent, le coup de pied n'était pas très important à l'époque dans le rugby à 13. Il y avait une certaine époque où c'était on interdisait de donner des coups de pied. Et là, on a lancé ce concours-là et on s'aperçoit que de plus en plus, les jeunes s'adonnent et sont très précis dans leurs coups de pied.
Alors, combien de licenciés, de joueurs, ça va attirer ce challenge? Des chiffres records chaque année.
Alors, oui, l'année dernière, on était presque... on allait pratiquement battre le record. On allait dépasser les 1300 gamins inscrits. Là, actuellement, c'est une relance. On est pratiquement... Alors là, c'est sous réserve. Parce que je sais qu'il y a deux clubs qui se sont inscrits dernièrement, mais on est déjà à pratiquement 1100 gamins inscrits.
Oui, c'est énorme, parce que malgré le Covid, malgré les perditions, bon, c'est énorme. Alors, quel jour et quelle est la date de ce tournoi?
Alors, c'est dimanche 3 avril, et on accueille les clubs à partir de 9h. Ça se passe sur une journée. De tous les clubs, on est à pratiquement 30 clubs qui arrivent de tout le sud de la France.
Alors, je suppose que, comme d'habitude, chaque joueur sera récompensé.
Tous les joueurs seront récompensés. Toutes les participations, tous les clubs sont récompensés, tous les joueurs sont récompensés également. C'est très important d'ailleurs de récompenser tous les enfants, parce que les tout petits notamment, qui viennent au Grégoire et ils sont très contents de repartir avec quelque chose.
Et qu'est-ce que vous avez leur offrir cette année?
Alors bien sûr, en dehors des coupes que l'on va avoir, des coupes et des médailles. Il y aura également un objet un petit peu particulier également. Ce sera une gourde isotherme qui sera remise. Et sur cette coupe-là, il y aura le logo de la région Occitanie qui nous aide là-dessus. Mais également, on a associé cette année une association contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une action qui a été portée par la région et pour laquelle on a tenu à la faire participer également avec nous, puisque le racisme et la discrimination dans le sport est relativement important, et il faut toucher des enfants à ce genre de sujet.
Oui. Alors, est-ce que vous avez toujours le même partenaire au niveau presse?
Au niveau presse?
Oui, avant vous aviez la...
Alors, la presse écrite, oui. On a de plus en plus de bonnes relations. Pendant un certain temps, il y avait eu une baisse de la relation était un petit peu plus froide avec la presse locale. Mais là, on a renoué des liens avec le groupe de la Dépêche du Midi, donc la Dépêche, tout le groupe entier avec l'Indépendant également. Et on demande également à la presse parlée, comme Radio Marseillette, de venir, de participer à ce challenge.
D'accord. Alors, ça demande toute une logistique, ça, parce que ça se prépare pas, ça se fait pas comme ça, une organisation. Combien vous avez de bénévoles ce jour-là, qui vont être au travail?
Alors, là, actuellement, cette année, on sera, je pense qu'on va dépasser les 90 bénévoles sur le terrain, que ce soit sur le terrain au niveau arbitrage, responsable de plateau, donc tout ce qui est sportif. Là, on a demandé normalement, donc il y a énormément d'anciens joueurs qui viennent comme responsables de plateau. On demande en règle générale aux aînés de venir nous aider également pour l'arbitrage. Et cette année, on a quand même demandé à ce que l'équipe élite également participe à cet accompagnement. Après, bien évidemment, on a toute la partie logistique, buvette, grillade, qui est relativement importante et qui prend énormément de gens également.
Oui, parce qu'il faut dire que ce challenge est ouvert à tout le monde, ce n'est pas, c'est tout le monde peut y aller, peut assister à ces matchs, peut se restaurer et va passer une excellente journée.
Bien sûr, et j'espère que on essaie de prévoir du beau temps également pour que tout se passe très bien. Et là, c'est sûr qu'il y aura la restauration, la buvette et également la joie de voir ces petits joueurs courir avec le ballon sous le bras et aller marquer.
Alors, président, mais tout ce petit monde, tous ces joueurs-là, il faut les nourrir. Vous faites comment?
Allez-y. Alors, et c'est là le
compliqué de la cantine, là. Hein.
Non, là, c'est les grosses, c'est la grosse cantine. On sort la grosse industrie. Donc c'est vrai qu'on va chercher tous nos partenaires de restauration, les bouchers, charcutiers que l'on connaît. C'est tout un réseau qui se met en place pour pouvoir avoir le maximum de dons. Parce que, comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent, malheureusement, sur les associations et malheureusement, à la suite du Covid, les portefeuilles se serrent un petit peu. Donc on va taper aux portes pour avoir des dons en viande, en frites et également en boisson.
Est-ce que vous avez une aide de la fédération?
Oui, mais là également, bon, notre partenaire du moment pour le challenge, il y a quand même le partenaire principal, c'est McDonald's, qui fait quand même don de pas mal de boissons et de nourriture également. Des cadeaux.
Oui, ça fait quand même.
Il y a les goûters sont offerts par McDonald's.
Ça fait une sacrée organisation. Alors, une question, à l'époque, je me rappelle, moi, pendant le challenge strict, pendant un certain temps, le challenge était déclaré l'un des grands challenges officiels, il n'y avait pas de compétition. Est-ce qu'un jour, vous envisagez un grand tournoi comme ça, que ce jour-là, il n'y ait pas de compétition dans tous les clubs pour que tout le monde puisse participer à ce grand tournoi?
On a cette idée-là. Maintenant, pour pouvoir le mettre en place, il va falloir y réfléchir et voir comment on peut faire. Mais pour les petits, les enfants ont besoin un petit peu de compétition. Enfin, on fait de la compétition, mais toujours dans le fair play. Hein.
Quand je parle de compétition,
il n'y a pas de classement.
Pardon. Attendez, quand je parle de compétition, moi je parle des compétitions nationales, élite 1, élite 2, fédérale.
Ah, d'accord.
Et voilà, c'était. Alors, il n'y avait que ce jour-là que le challenge strict. C'était protégé. Voilà ce que je voulais vous dire.
Vous au niveau de la fédération, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je prône, ça fait déjà quelque temps, mais je prône au moins un minima pour les Benjamins, les U13, avoir en accompagnement avec les minimes et les cadets, avoir un championnat national de telle manière à ce que les gamins ne se retrouvent pas systématiquement avec les mêmes équipes devant pour jouer, avoir des équipes extérieures. C'est sûr que financièrement ça peut freiner beaucoup de gens, mais la découverte du rugby au niveau national, il y a certaines villes qui peuvent imaginer de recevoir Carcassonne, les 13 catalans, Limoux, Lézignan, des grosses équipes. Pour eux, ce serait formidable d'avoir ces équipes-là à venir chez eux pour justement une véritable compétition.
Oui. Alors, ce que je veux dire, je me rappelle aussi qu'à l'époque, ce jour-là, il n'y avait que le challenge austrique, il n'y avait pas d'autres compétitions. C'était réservé exceptionnellement au challenge austrique. Bon, eh bien, donc tout le monde, ça commence à 9h, hein, les gens pourront se restaurer. Il doit y avoir d'autres activités parallèles à ce challenge pour les gens. Est-ce qu'il y a, à l'époque, je me rappelle, il y avait des châteaux, il y avait des gonflables, il y avait un tas d'activités. Est-ce que ça va y être ça toujours?
Alors, oui. Le château gonflable, on l'a demandé. Mais c'est selon le temps. S'il pleut, il faudra faire un petit peu attention. S'il fait beau, le gonflable, il sera. L'association qui va venir, la couleur citoyenne, va faire participer avec des ateliers de jeux pendant les pauses et tout ça. Donc elles feront faire des petits ateliers de jeux. Et également, il y aura certains partenaires qui vont exposer autour du stade.
Est-ce que vous allez avoir aussi le camion podium pour la remise des trophées?
Le camion podium, on ne l'aura pas, mais l'estrade y sera pour les trophées. Il y aura une estrade, l'estrade qui a été posée par la mairie également. Donc au niveau sonorisation, toute la plaine sera sonorisée avec musique et également une personne qui va se promener tout autour du stade pour animer pas tous les matchs, mais certains matchs et poser des questions aux gens, voir ce qui se passe. Voilà.
Très bien, Denis, as-tu des questions à poser?
Eh bien non, je crois qu'on a fait le tour de ces sujets, Roger. Je pense simplement, je pense que pour la troisième partie que je voulais aborder, je crois qu'on le gardera pour la prochaine fois, puisque bon, je pense qu'on aura l'occasion, quand le livre sera sorti, donc peut-être dans 15 jours ou dans 3 semaines, oui. Nous recevrons à nouveau ces messieurs, et à ce moment-là, on pourra parler sportivement où en sont les jeunes carcassonnés. Alors, une information quand même que vous pourrez diffuser, que tous les auditeurs, mais vous pouvez diffuser autour d'eux et que vous pouvez diffuser aussi auprès des membres de l'encadrement, de l'académie, etc. S'il y a des personnes qui veulent réécouter cette émission, ce qu'on appelle un podcast, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu l'écouter à l'instant, normalement, à partir de lundi, il suffira, bon, il faut aller sur le site de www.marseillettefm.com et là, vous allez dans la rubrique 13 passions et vous pourrez réécouter le 13 passions d'aujourd'hui et réécouter l'ensemble de l'interview dans tous les cas de l'émission, mais en particulier votre interview et puis toute la partie sur le livre. Donc pour ceux qui auraient loupé le direct de ce soir. Voilà, je pense qu'on va pouvoir
Denis, tu m'avais fait une proposition, oui. Tu avais dit, on pourrait faire gagner dans chaque émission de 13 passions 2 pages chaque fois sur le livre. Tu le maintiens?
Oui, d'accord.
C'était le petit présentorier.
Voilà.
Très bien, bon, merci. M. Saez et M. Garcès, en tout cas, c'est une excellente initiative. Moi, je suis bien content que le Grégoire reparte. Je suis bien content qu'il y ait aussi notre ami Laurent Reynaud. On ira faire un petit tour à la Plaine Merveille. Et puis, je pense que ce livre va se vendre pas mal quand même, parce qu'évidemment, c'est toute une histoire. Il y a plein de carcassonnés, autres carcassonnés, qui sont passés par la maison des jeunes. Et bon, ça manquait un petit peu.
Mais par contre, messieurs, je tenais également à dire, hein, pour peut-être clôturer, ce week-end devait avoir le quart de finale de la Coupe de la Ligue pour les Benjamins, qui malheureusement a été annulé aujourd'hui même pour des raisons de Covid pour l'équipe de Dornaison, que l'on devait rencontrer chez eux. Par contre, samedi après-midi, à Benos, sur le stade de Gilbert Benos, les minimes et les cadets rencontrent le 13 catalan à la maison.
Oula, voilà, gros match là.
Ça va être chaud là.
On sait très bien comment se passent les matchs contre le 13 catalan. Donc, oui.
Ils ne sont pas parlé à Denis là. C'est vrai que là, c'est des matchs. C'est des gros matchs.
C'est des gros matchs, et en plus, on est au classement, on est tous les deux secondes derrière Bao. Donc je pense que ça va être des matchs relativement rudes pour pouvoir essayer de conforter la deuxième place.
Très bien. Eh bien, on vous remercie. Venez nombreux. Du côté vers Bonos, vous allez vous régaler. Allez Denis, bon, reste pas trop de temps. Hein.
Merci José, merci Bernard.
Ben oui,
merci à vous. Et bonne soirée, au revoir.
Bonsoir, à bientôt.
Alors Denis, on n'a pas trop de temps. Est-ce que tu as des infos ou tu veux qu'on parle, c'est vrai que de ce dimanche, il y a un derby de feu là, et bon, entre les
Signans
et les Bourg,
on va peut-être garder les infos internationales pour la semaine prochaine, on verra en fonction d'où on en est.
C'était mon opinion aussi, parce que là, c'est vrai qu'il y a un derby de feu, hein, et extrêmement important pour les Aignans, peut-être un peu moindre pour les Mous, peut-être, je dis bien peut-être, je sens que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais les Aignans, là, il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent. Et les Mous, pour moi, j'en fais la l'heure actuelle. D'après moi, c'est la plus grosse équipe du championnat, à l'heure actuelle, sur ce moment-là, hein, parce que, ils ont souffert contre Albi, mais attention, Albi revient fort, 22e mi-temps, Albi n'a pas touché terre, et les Ignan contre Saint-Estève 13 catalan, ils ont fait énormément de fautes, et surtout, quelques mauvais choix, Denis.
Alors oui, moi je te rejoins tout à fait, Roger, je ne vais pas dire le contraire, tu sais bien que le chef a toujours raison, mais sérieusement, oui, ton analyse est...
Tu fais bien de le dire.
Voilà, avec Nicole, on se le répète toujours. Et donc, c'est sûr que cette équipe, ce match est important pour les deux équipes. Les Ignans, traversent un peu une mauvaise passe parce qu'ils ont quand même pas mal de blessés, puis ils ont quand même des garçons comme Moa, Inou, Belmas, sur qui ils comptaient en début de saison, qui ne sont plus là. Donc, c'est vrai que l'équipe de Lignan, du coup, actuellement, on va voir, peut-être contre Limoux, ils auront quelques retours, mais on a vu contre les Catalans la semaine dernière, au niveau du paquet d'avant, il manquait quand même quelques joueurs importants, et en particulier au niveau de la seconde ligne. Et c'est vrai que ça a peut-être... C'est ce qui... Alors, il n'y a pas que ça qui a compté, mais c'est vrai que cette équipe de Lignan semble marquer un peu le pas au moment où Limoux, comme tu dis, en ce moment, fait grosse impression. Ils arrivent en forme, en pleine forme au bon moment. Et pour les places, les trois clubs audois sont à la lutte pour les places, pour les deux premières places. Hein. Alors, c'est vrai que ce match est un match très important pour le vainqueur prendra une option pour terminer dans les deux premiers. Pour le perdant, ça sera pas la possibilité existera encore, mais c'est vrai que le vainqueur prendra une belle option Alors, est-ce que... Bon, moi aussi, je serais peut-être tenté de mettre un peu Limoux au-dessus. Mais Limoux, parfois aussi, quand on l'a vu en première mi-temps contre Albi, fait preuve aussi, oui, n'est bon, pas toujours...
Voilà. Mais, ah, Denis, ils sont pas tous... ce match oui contre les Dragonnettes, bon, il faut dire quand même qu'il y avait pas mal de joueurs de Super League dans cette équipe. Ceci explique cela. En plus, ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Alors, on l'a vu en deuxième mi-temps, le rythme effréné de cette équipe catalane. Et quand tu t'entraînes que trois fois par semaine, évidemment, c'est pas pareil. Bon, ceci quand même excuse un petit peu, peut-être, la, pas la mauvaise performance, mais la défaite des Gignans. Il faudra qu'elle évite de faire des fautes. Alors, Limoux n'aura peut-être pas le rythme de ces, des Dragonnettes, mais attention, moi je parierai peut-être, alors tu vas voir, un demi-copec sur Limoux, et l'autre moitié de copec, je parie sur les Ignaces. Voilà.
Bon, si tu arrives à trouver des copecs en ce moment, c'est... Bon, enfin, et donc, oui, alors il faut se rappeler aussi que, puisqu'on parlait des Dragonnettes, que Limoux avait failli aussi gagner à Saint-Estève. Hein. Bon, on peut dire que Limoux avait offert deux essais qui avaient fait la différence, mais Limoux avait pris le point de bonus défensif à Saint-Estève, ce que n'a pas fait les Liens, et Limoux aurait gagné à Saint-Estève. Et là, ce jour-là, il y avait aussi peut-être même, il y avait même encore, enfin, j'ai plus en tête, mais un ou deux jours près, il y avait toute l'armada des joueurs des Dragons catalans qui ne jouaient pas en équipe 1, qui était présent là. Donc maintenant, c'est vrai que pour tous les matchs pratiquement que Saint-Estève catalan joue, eh bien tous les joueurs des Dragons catalans qui ne sont pas appelés en équipe 1 sont reversés dans la réserve. Donc c'est le lot de toutes les équipes.
Ces joueurs qu'on a vus la semaine dernière, ils vont être demain sur la pelouse de Brutus, pour la Coupe de l'Angleterre. C'est-à-dire quand même, bon, c'est pas des manchots. Bon, c'est pour dire la difficulté de cette équipe de Lyon. Et là, il va y avoir un monde de fou, je pense, à Lyon. D'autant plus qu'ils ont prévu le beau temps, là aussi, ça va être pas mal. Il y a un deuxième match, Denis, faut pas l'oublier. Carcassonne qui reçoit Villeneuve sur l'autre.
Bon, voilà, là, alors demain,
là, ça, c'est... Je pense, Denis, pour te lancer, je pense qu'il faut que Carcassonne ne prenne pas à la légère cette équipe de Villeneuve-sur-Lot, même si elle semble baisser un peu de rythme, elle aussi.
Oui, alors, disons, le match de derby aura lieu dimanche à 15h, et le match de Carcassonne-Villeneuve a lieu demain soir, samedi, à 18h30 au stade Albert Domecq, les juniors démarrant à 16h30. Oui, là, bon, j'ai vu la composition de l'équipe carcassonnaise. Bon, on a du côté de l'encadrement carcassonnais. Alors, comme du côté carcassonnais, il reste deux matchs à disputer derrière qui sont très importants, qui vont être très difficiles, mais qui sont très importants pour la qualification dans les deux premières places, puisqu'ensuite, la semaine prochaine, ils viendront à Saint-Estève, les Carcassonnais, affronter les Dragonnettes, et ensuite, le week-end d'après, c'est la réception du 13 Limoxen. Donc là, du côté Carcassonnais, contre Limoux, on fait tourner un peu l'effectif, puisque un joueur comme Bastien Canet sera au repos, Gambaro sera au repos, mais en même temps, par rapport à la semaine dernière contre Saint-Gaudens, il y a des joueurs qui font leur retour, Vincent Albert, Herrero, Francis, l'Australien, qui revient après sa déchirure, qui sera d'ailleurs positionné à l'aile, peut-être, en début de match, peut-être ensuite, enfin, on verra. Donc, mais on peut dire que l'équipe, on refait remonter en puissance. Aujourd'hui, l'effectif carcassonnais, à part Simon, qui est toujours à l'infirmerie, et qui est Dimi, bon, mais qui a terminé la saison. Après, tout l'effectif carcassonnais est prêt à être sur le pont, donc des choix sont faits. Je pense que les carcassonnais vont prendre cette équipe de Villeneuve avec sérieux, et bon, après, les carcassonnais seront favoris. Ensuite, il y aura deux autres...
Denis, une petite boutade, pour une fois, deuxième ligne de canet, n'aura pas la carte jaune.
Voilà, donc exactement.
C'est une plaisanterie.
Et, oui, mais la semaine dernière, il n'en avait pas eu non plus, hein, mais il était passé près puisqu'il avait, il avait fait un plaquage
par l'épaule. C'est un joueur qui est chaud. Qui est, il en faut dans les équipes, de temps en temps, il en faut un comme ça.
Ah, il faut que parfois il se maîtrise un peu quand c'est pas
des ben oui, de bon, la garçon. Flamme très vite, bon, il y a le niac.
C'est le Val de Dagne, ça. C'est le Val de Dagne, ça, Roger, tu sais que...
Il a été élevé, là, au poulet fermier et au gain, là, bon, pas n'importe quoi, là, et au bon vin, et au bon pinard. Alors, bon, il y a 5 ans. On salue ses parents, d'ailleurs.
Et puis, il a vraiment des qualités extraordinaires. Et alors, donc, oui, il y a deux autres matchs ce week-end, Roger, moins, qui paraissent un peu plus moins équilibrés, puisqu'il y aura le match des réserves, puisque Toulouse Olympique 13 recevra Saint-Estève Catalan. Oui, parce que même si Saint-Estève Catalan se déplacera à Toulouse avec, comme tu l'as dit, avec des joueurs qui étaient la semaine passée avec eux, et qui n'y seront pas demain. Bon, je pense que l'équipe catalane pourra s'imposer à Toulouse. Et puis, donc, c'est dimanche à 15h, et toujours dimanche à 15h. Alors, dimanche à 16h, Avignon recevra Saint-Gaudens. Là aussi, il n'y aura pas de foot.
Voilà.
Donc, les deux matchs que vous pourrez suivre en direct ce week-end sur Radio Marseillette, eh bien, demain soir à 18h30, vous aurez Carcassonne 13 contre Villeneuve, 13, Villeneuve sur l'autre, hein, rappelons-le, quand
oui,
sur
oui.
Rugby League. Et dimanche, alors nous serons avec Roger au terre. Et dimanche, eh bien, vous aurez en direct à partir de 15h le derby de feu entre le Feuceleux et le 13 de Limoxin. Et là aussi, vous aurez, qui sera commenté par Jean-Claude Bousquette et Alain Rouche, voilà, donc deux commentateurs qui seront au stade du Moulin.
Voilà, eh bien, moi je vais vous rappeler, je vais vous parler un petit peu de Villers-Aragon. Bon, vous savez, déjà, on prépare la saison prochaine, hein, puisque le 10 septembre, ils auront un grand bidonnier, et le 17 septembre, un grand festibœuf. Et cette année, bon, on a repoussé à l'année prochaine la soirée cabaret, parce qu'avec le Covid encore, bon, on ne veut pas prendre de risques, mettre en danger, bon... Des gens qui pourraient attraper le Covid. Donc c'est reporté à l'année prochaine. Voilà Denis, je pense qu'on a fait
alors, le tour. Roger, oui, on peut dire, non, non, en disant quand même.
Mais, oui, oui, mais je sais ce que tu vas me dire. Les challenges. Les classements.
Voilà, il y a les challenges. Il y a le classement de Victor, mais le temps que je les cherche, on peut dire, que ce week-end, quand même, il y aura c'est la Coupe d'Angleterre. Hein, c'est pour ça qu'on appelle les Dragons catalans. Ont un match assez facile, enfin, sur le papier dans tous les cas, ils ont eu la chance au tirage aujourd'hui, ils reçoivent Featherstone qui est le leader de la Championship.
Oui. Et puis bon, là, donc, je pense que ça devrait passer pour Perpignan, mais attention quand même, ça devrait être facile. Et puis Denis, ce matin, il y a eu un match de NRL, entre un match au sommet entre les Roosters et les Rabouteros, quel match. Oui. Et moi, les Rabbitohs m'ont fait une très, très, très forte impression. Très, très forte impression, parce qu'ils ont gagné comme il faut. Il y a deux essais qui sont refusés, quoi que l'on dise, parce qu'il y avait des fautes, des pécadilles, mais c'était des fautes. Et là, les Roosters, c'est pas qu'ils n'aient pas été à la hauteur, mais ils ont été dominés, devant, ils ont été dominés. Et puis, le jeu des Roosters, la vitesse des Roosters, a fait énormément de choses, énormément de. Et puis hier, il y avait un match, je crois que c'était hier, qui s'est déroulé sur une pluie battante, pas un ballon tombé, rien, un spectacle total, Denis.
Eh oui, donc c'est la NRL, et c'est vrai que le derby de Sydney ce matin a été extrêmement intéressant entre ces deux équipes. Alors, concernant évidemment les masters, le classement des masters, Victor Jalbourg a fait le nécessaire pour nous envoyer le... Voilà. Alors, après les résultats de la semaine passée, alors c'est Carcassonne qui a pris la tête provisoirement de ce Master Bernard Roque avec 20 points pour 13 matchs joués et un goal average de plus de 141. Lézignan est second avec 20 points aussi, mais 12 matchs joués, un match de moins et un goal average de 146. Mais Limoux est troisième avec 18 points, à 2 points avec 12 matchs joués et un goal average de 228. Donc vous voyez que c'est extrêmement serré. Donc demain, on verra, le derby de demain, les deux matchs de demain auront leur importance par rapport...
Ah oui. Pardon, je crois qu'on commencera peut-être à voir... Ouais, si Carcassonne gagne et si Lézignan perd, là, on pourrait avoir peut-être Carcassonne qui pourrait commencer à envisager de mettre un troisième challenge sur l'étagère. Hein. Donc, c'est deux matchs importants, du moins concernant ce master Roque.
Oui, encore que, comme le disait, Carcassonne devra aller à Saint-Estève la semaine prochaine et ensuite
recevoir Limoux. Oui.
Voilà. Alors, tout le monde, Lézignan devra, je crois, doit se déplacer du côté d'Albi, je crois. Enfin, aussi, il y aura des matchs encore, la saison n'est pas finie. Le mois d'avril va être intéressant, mais c'est vrai que ce week-end, ça peut être un premier tournant. Voilà, donc, Roger.
Exactement, voilà, Denis. Ben, on va se donner rendez-vous demain, hein. Demain à 18h30,
si j'ai bien compris. 18h30, hein.
Oui, Carcassonne thèse contre Villeneuve sur l'autre. Et puis demain après-midi, écoutez, vous avez aussi vos Lézignan Limoux. Et si vous pouvez d'ailleurs regarder les matchs sur Facebook à Carcassonne et sur YouTube aussi Lézignan, vous avez le son et l'image. Vous coupez le son des commentateurs et vous prenez le son de Radio Marseillette. Vous verrez, ce sont les meilleurs commentateurs. Voilà.
Merci beaucoup. Allez, bien merci.
À bientôt,
Nicole.
Bon week-end à tous. À demain pour vivre le rugby à 13. Vous voyez pas, demain matin à 9h, il y a un match de rugby à 13. Et dimanche, attention, dimanche, il y a eu le changement d'horaire. Le match, préparez les pour l'enregistrer. Le match de la NRL est à 7h du matin. Voilà.
Très bien,
merci. Merci Nicole, merci Denis. Et à demain pour nous. Au revoir.
À demain.
Ciao à tous.
Ciao,
à demain.
Ciao. Bonne soirée.